Vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafond. Cette semaine, 10 nouveautés sur les écrans mensaux. Goliath, Petite Nature, Permis de construire, Murder Party, Les Meilleurs, The Housewife, Kung Fu Zora, À Demain Mon Amour, Women Do Cry, et même L'Homme de Dieu dont je ne suis pas sûr qu'on parlera parce qu'il n'est pas projeté tous les jours au Pâté Quinconce. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, je suis allé picorer un petit peu dans tous les films que j'ai pu voir cette semaine. Et on commence par un titre que l'on entend, bah, évidemment, dans Permis de construire. C'est Corsica de Petru Gelfucci. Je ne suis pas absolument certain que je prononce comme il faut, mais je pense que ça va se prononcer comme ça. Petru Gelfucci, Corsica, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
I'm
Corsica, Pietro Galfucci, un titre que l'on entend dans le film Permis de construire. On en parle dans une dizaine de minutes de Permis de construire. On commence notre semaine cinématographique avec Goliath. Goliath, c'est un film français de Frédéric Tellier, réalisateur et scénariste, qui a commencé sa carrière par des téléfilms et puis on l'a découvert sur les écrans cinématographiques en 2013 avec un excellent film, l'affaire SK1. Avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye et Olivier Gourmet. 2018 également excellent, Sauver ou Périr, avec déjà Pierre Niney et Anaïs de Moustier. Et puis il est également le réalisateur de certains épisodes de séries télévisées. Goliath, c'est un film qui est proposé par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. 2h02, France, professeur de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte radical d'une anonyme, ces trois destins qui n'auraient jamais dû se croiser vont se bousculer, s'entrechoquer et s'embraser. Le journal du dimanche, qu'en pense-t-il Stéphanie Belpech ? Un geste de cinéma poignant porté par une excellente interprétation au service d'un thriller captivant et édifiant d'utilité publique. Philippe Lemoine dans Ouest France parle de cinéma vérité, haletant et édifiant. Corinne Renoux-Nativelle dans La Croix, un film dossier à la construction remarquablement maîtrisée. Olivier de Bruyne dans Les Échos, Gilles Lelouch et Pierre Niney s'affrontent sur fond de pesticides lobby derrière la caméra de Frédéric Tellier. Un film efficace qui honore une certaine idée du cinéma français populaire et exigeant. Julien Barcillon dans Télé 7 jours déclare que c'est un grand film révolté et utile. Geoffrey Crété, écran large, Goliath y va avec les gros sabots du mélo et abuse des violons et facilités pour ramasser ce vaste et passionnant sujet sur 2 heures. Reste que le film est mené tambour battant, largement grâce à des acteurs et actrices impeccables jusque dans les seconds rôles. Nicolas Chalère dans L'Obs, à vouloir trop embrasser, Frédéric Tellier étreint inégalement son sujet, mais reconnaissant en lui une colère communicative et salutaire. Difficile de ne pas être gagné par une furieuse envie d'en découdre avec le grand capital et son armée cynique de chéquiers et d'éléments de langage. Fabrice Leclerc dans Paris Match, malgré un traitement parfois académique, le film est efficace, salvateur et rehaussé par le duel incandescent de deux grands acteurs, Gilles Lelouch et Pierre Niney. Jacques Mandelbaum, Le Monde, un dossier efficacement troussé entre thriller et cinéma militant, qui ne souffre guère la contestation, mais dont le goût pour le pathos et l'édification morale eut gagné à être plus retenu. Enfin, Théo Ribeton dans Les Incorruptibles, Goliath a l'air de ne pas croire en lui-même. Il s'astreint à un minimum syndical d'esprit de sérieux, mais flirte souvent avec le rire. Alors, je sais pas, j'ai pas dû voir le même film que Théo Ribeton, parce que je vois pas très bien où ça flirte avec le rire. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Goliath, ben, j'aurais... sûrement pleinement apprécié le film et j'aurais dû pleinement l'apprécier, ce film de dénonciation des méfaits des produits de l'industrie chimique sur la santé des gens, un film qui, sous la forme d'un thriller politique, se situe un petit peu dans la filiation de La Fille de Brest en France, Erin Brockovich, Dark Waters, Révélation, ça c'est des films américains de ce style, mais son parti pris assumé d'être militant a fini par m'agacer, oui, et c'est bien dommage parce que le film avait tout pour me plaire avec ses trois personnages principaux, donc France, c'est Emmanuel Berco, c'est la victime indirecte de la tétrazine, ce produit chimique cancérogène, et France va se lancer dans le militantisme contre la firme qui le produit. Deuxième personnage, Patrick, ce petit avocat, des victimes qui se lance dans une croisade contre la multinationale. Il est incorruptible, ne se laisse pas intimider par les pressions de tous ordres qu'il va subir. Et puis, troisième personnage, Mathieu, le lobbyiste, communicant ultra habile, qui défend les intérêts de l'industrie pendant la plus grande partie du film. Eh bien, c'est la confrontation directe ou indirecte des personnages qui est passionnante avec ses oppositions de points de vue et d'arguments. Et qui montre parfaitement les multiples enjeux économiques, politiques, humains, écologiques qui sont au cœur du film. Et puis sur la fin, j'ai beaucoup moins apprécié ce militantisme assumé, parfaitement louable, hein, y a pas de doute là-dessus, mais qui, je trouve, dessert de mon point de vue le film qui n'en avait pas besoin, parce que dès le départ, ben, le spectateur, il est forcément favorable aux victimes. Il n'y a pas besoin d'appuyer aussi fort en abandonnant toute nuance pour tomber dans un manichéisme vraiment appuyé. Reste que le film montre bien, et ça, c'est le meilleur de Goliath, l'importance et les méthodes de lobbying. Pierre Niney et Laurent Stocker sont absolument remarquables Gilles Lelouch est lui aussi parfait dans son interprétation du petit avocat, mais les auteurs tirent son personnage par moments vers la caricature du mec débraillé, alcoolique, largué par sa compagne. Donc bon, forcément on est en sympathie avec lui, mais il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Et puis Emmanuel Berco est une victime tour à tour effondrée, puis pugnace dans sa lutte. C'est un film fort, c'est sûr, qui choisit son camp, trop pour mon goût. Je ne suis pas un défenseur à tout craint de l'industrie chimique, hein, dont le moteur est évidemment le profit, mais je n'ai pas non plus très envie de vivre comme en 1400 ou en 1700, époque sans produits chimiques, avec famine et mortalité galopante. Hein. Comme souvent, il existe un juste milieu dans l'usage des produits chimiques et il est malhonnête quand même de ne pas le recommander, de ne pas le reconnaître, en tous les cas, de ne pas le reconnaître. Je recommande malgré tout le film, malgré les réserves que j'ai pu faire, parce que c'est quand même un film qui est intéressant sur... une dénonciation. Alors, cette tétrazine, je ne sais pas si elle existe, mais on pense forcément au glyphosate, hein, forcément, oui. En voyant le film.
Beaucoup Goliath. De parti pris, donc.
Oui, c'est ça. Goliath, et ce n'était pas utile d'avoir un tel parti pris, quoi. Goliath, un film qu'on peut voir au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Petite nature, là, cette fois-ci, c'est uniquement au cinéaste, avec une seule séance par jour. C'est un film de Laurent Theis, je pense que ça se prononce comme ça, Laurent Theis. Un réalisateur, scénariste français.
C'est Samuel, non ?
Samuel, pourquoi j'ai dit Laurent ?
Je sais pas.
Samuel Theis, oui, Samuel Theis, acteur, réalisateur, scénariste français. Il avait réalisé en 2013 Party Girl, co-réalisé d'ailleurs avec Claire Burger, ou Burger, je ne sais pas, Burger, on va dire, c'est dans l'Est de la France, on dit Burger. Et voilà, donc ça, c'est son deuxième film, mais en tant que réalisateur unique. Donc Samuel Theis, pourquoi Laurent, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. 1h35 pour ce film. Johnny a 10 ans, mais à son âge, il ne s'intéresse qu'aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d'un nouveau monde. Le Parisien, un drame lumineux où brille l'excellent Antoine Reinhardt et deux révélations, Mélissa Olexa et le jeune Alyosha Reinert. Ariane Allard en positif, le sujet est périlleux, le traitement d'une rare intelligence, le résultat détonnant. Françoise Delbecq dans Elle parle d'un récit d'apprentissage tendu et sensible. Baptiste Thion dans Le Journal du Dimanche, un film âpre et doux à la fois, porté par une mise en scène délicate et sans fioritures, si bien que la claque qui la scène ressemble à une caresse. Adrien Gombeau, Les Échos, 8 ans après Party Girl, Samuel Theis retrouve sa ville de Forbach et raconte les 10 ans d'un gamin qui rêve de partir à tout prix, un film cru, réaliste et vibrant. Et on continue dans les éloges avec Jacques Maurice dans Télérama. Il faut saluer Mélissa Olexa, comédienne non professionnelle qui touche juste dans l'agressivité comme dans la tendresse. Et bien sûr, il y a Alyosha Reinert qui crève l'écran dans un rôle périlleux en portant une large part du film sur ses épaules. Céline Roudin dans La Croix continue dans la même veine, un récit troublant tout en délicatesse. C'est Thomas Borès en première, un film touchant dont la justesse tient de la vérité qui émane de chaque morceau d'un film faussement fragile. Ça s'appelle donc « Petite nature ». C'est proposé une séance par jour par les cinéastes. Et c'est un film, on va dire, dans la veine naturaliste, réaliste, fort intéressant. C'est l'histoire de Johnny. Johnny, c'est un préado de 10 ans. Il habite Forbach. La plupart du temps, il est livré à lui-même, père absent, mère qui pense plus à se faire sauter qu'à s'occuper de ses enfants. Un grand frère, Glander, dont on sent dès le départ qu'il va certainement un jour mal finir. Et lui, Johnny, qui est au milieu de la fratrie et qui doit s'occuper notamment de sa petite sœur. En cette rentrée scolaire, il fait la connaissance d'un instituteur qui s'intéresse à lui et qui devine son potentiel. Mais Johnny éprouve plus que de l'affection pour cet homme qui lui laisse entrevoir avec sa femme qu'une autre existence est possible que la sienne. Et il en tombe amoureux. Et oui, on peut tomber amoureux de son instituteur ou de son professeur. C'est un magnifique portrait d'enfant, tout en retenu, malgré un aspect de l'histoire assez casse-gueule. C'est le récit d'un éveil à soi et au monde, avec des acteurs amateurs assez bluffants, incarnant donc Johnny et sa mère, mêlés à des professionnels, il y a Isia Ijelin notamment, et donc Antoine Reinhardt. Un ton juste de bout en bout, donnant à voir ce qu'on vit dans certains milieux populaires, sans chercher à les magnifier, en montrant la réalité la plus triviale, et l'espoir peut-être pour Johnny d'échapper à la fatalité sociale qui, par exemple, guette à coup sûr son grand frère. Il y a notamment une scène où Johnny hurle avec rage à la face de toute sa famille combien il veut fuir cette médiocrité sociale qui lui fait honte. C'est une scène extrêmement forte. Alors, on appelle cela un récit d'apprentissage, et celui-ci est parfaitement réussi. Ni misérabilisme, ni angélisme prolétarien. Il évite tous les écueils potentiels qui le guettaient, traitant son sujet avec finesse, avec tact. C'est aussi un magnifique film sur le rôle de transmission des maîtres d'école. On ne dit plus maître d'école, on dit professeur des écoles, mais c'est ça, hein, maître d'école. Un très bon film inscrit dans une vraie réalité sociale, plein d'humanité, que je recommande, et il n'a pourtant qu'une seule séance par jour au Cinéaste. Permis de construire, c'est un film proposé par le Colisée, le Pâté Quinconce, le Méga CGR, et c'est un film de Eric Fraticelli, acteur, réalisateur, scénariste, né en 69. On l'a vu acteur dans Taxi 5, dans Marseille, dans La French, dans Vive la France. C'est son premier long-métrage, Eric Fraticelli. Ce film dure 1h33. Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté, y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème, ce terrain se situe en Corse. Alors la presse n'est pas bousculée pour aller voir le film, mais on va quand même citer au moins trois critiques. Écran large, la revue Écran large, Permis de construire n'est pas une bonne comédie, tant s'en faut, mais au moins, elle ne navigue pas dans les égouts habituels de l'humour communautaire à la française et ne surfe pas sur les bas instincts de son public. Le Parisien, les paysages de la Corse, criques, montagnes, maquis sont bien entendu splendides, mais la recette de cette comédie populaire est d'une lourdeur rare, qui reste sur le ventre comme une assiette trop copieuse de figatello. Ah, figatello, c'est les saucisses corses. Mmh. Télérama, Marie Sauvion, une sorte de sous Bienvenue chez les Ch'tis qu'il vaut mieux laisser béton. Bah, je suis moins dur que les critiques professionnelles. Faut dire que je m'attendais au pire. Hein. Romain, donc dentiste parisien, heureux en ménage avec sa femme, apprend qu'il hérite d'un père qu'il a peu connu. Hein. Il a été abandonné à l'âge de 7 ans et depuis, bah, il ne l'a plus revu. Il hérite donc d'un terrain en Corse, charge à lui d'y construire dessus une maison. Alors donc, Romain et sa femme débarquent dans l'île, et il va vite se rendre compte que malgré l'aide de l'ami de son père, il est loin d'être facile de réaliser justement ce vœu de construire une maison sur le terrain légué. C'est une histoire d'amitié et d'humour corse. Alors oui, ça existe, l'humour corse, ça s'appelle même la macagna. C'est une forme d'humour très pince sans rire, hein, tout dans le masque. On ne sait jamais si c'est du leurre ou du cochon. Hein. Ça donne un film vraiment drôle. Moi, je trouvais drôle, alors qu'il joue absolument des clichés traditionnels sur les Corses. Hein. Des gens taiseux, fiers, qui n'aiment pas les continentaux, qui sont rebelles à l'autorité. Tout ça, c'est les clichés sur la Corse. Mais est-ce que ces clichés ne sont pas en partie vrais? Bon, bref. Ces Corses sont incarnés par des acteurs locaux qui ont tout ce qu'on appelle des gueules, des trognes, vraiment, voilà. Alors, outre de nous montrer les somptueux paysages de la bien nommée île de beauté, le film propose une sorte de buddy movie entre un continental dont les certitudes et préjugés vont être mises à mal par son séjour et sa rencontre avec un local, un Corse pur jus. Donc, c'est une comédie sympathique, souvent drôle. Moi, je trouve ça souvent drôle, pas si lourd que ça. Les deux acteurs principaux, Bourdon et Fraticelli, lui-même réalisateur, semblent s'entendre comme larron en foire. Les seconds rôles sont excellents. Alors, certes, Abkarian fait vraiment beaucoup en architecte très Lagerfeldien. Oui, c'est comme ça qu'on dit, qui ressemble à Karl Lagerfeld. Mmh. Il y a Anne Consigny et Véronique Viola qui incarnent le bon sens face à leurs époux dépassés par les événements. Donc, on pouvait craindre le pire, hein, vraiment. Et ce n'est pas du tout le cas, à condition toutefois de ne pas en attendre trop. Hein. C'est une comédie bon enfant. Ça n'est pas non plus absolument la comédie de l'année, très 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 loin de là. Hein. Mais bon, ma foi, c'est pas si honteux que ça. Voilà, ça s'appelle Permis de construire, c'est au Méga CGR, au Pâté Quinconce, c'est même au Colisée. Allez, hop, dans Goliath, on entend quelques titres, et notamment on entend, alors ça va plaire à Pierre, parce que c'est un titre des années 60, je pense. Hein. The Marquise Last Night.
Ah oui, c'est un instrumental.
Voilà, exactement.
Oui, oui. Salut les copains.
Oui, exactement.
L'indicatif, oui.
Allez, hop, c'est parti. Je sais pas pourquoi ça démarre. Ah, voilà. Ça va démarrer. We'll be right back. Last Night the Marquis. Alors, Pierre, tu confirmes bien ?
Ça me rappelle des souvenirs, oui.
Et oui.
Pendant plusieurs années, j'ai utilisé cela comme indicatif, puisque je le disais, c'est l'indicatif aussi de Salut les copains,
oui,
d'Europe 1 dans les années 60. Ça ne rajeunit personne.
Et oui, surtout pas moi.
Cette année, j'ai changé d'indicatif parce que j'ai changé de style un petit peu. Je fais toujours les années 60, mais aussi de la soul music.
Bon, alors voilà. C'est quand ? Rappelons.
Alors,
samedi.
C'est le samedi à 16h.
Voilà, sur Radio Alpa, 107.3.
Évidemment.
Bien sûr. Allez, Murder Party. Murder Party, c'est un film proposé par le Pathé Quinconce et par le Méga CGR. C'est un film français de Nicolas Pleskov. Nicolas Pleskov, réalisateur, scénariste, qui a auparavant réalisé un court-métrage. Non, c'est le premier long-métrage, 1h43. Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à la tête d'un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en plein murder party, Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. Très contrasté, hein, la rue de presse. Gilles Kerdreux, West France, avec une belle esthétique très colorée et un joli casting. Nicolas Pleskov propose une charmante comédie qui reste bien gentillette. Corinne Renoux-Latibel-Lacroix, ce polar au décor soigné, tourne à la farce macabre, sans réussir à allier de manière convaincante comédie déjantée et intrigue en huis clos. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Le film souffre toutefois d'un déséquilibre permanent, ni partie de Cluedo façon à couteau tiré, ni escape game. Anxiogène type Wedding Nightmare, ni franche parodie. Thierry Chaise, première, à trop vouloir rajouter des couches et des degrés, Murder Party se perd dans des circonvolutions artificielles et nous perd par ricochet. Ben, je suis un petit peu d'avis avec la dernière critique. C'est un film d'enquête farfelu, façon Cluedo que ce Murder Party, et c'est bien décevant à l'arrivée, malgré son casting alléchant. Il y a là-dedans Alice Paul, Miu Miu, Eddie Mitchell et quelques autres. Gustave Kernern, par exemple. Jeanne, donc, jeune architecte, Alice Paul, est reçue dans le manoir de la famille Daguerre afin d'assurer sa rénovation. Et la famille Daguerre, c'est une famille qui a fait fortune dans les jeux de société, dits jeux de plateau, hein, vous voyez, un peu genre Monopoly, tout dans ce genre-là, quoi. Hein. Sitôt arrivée, Jeanne est confrontée à la mort brutale du fondateur, César, voilà, qui est le coupable parmi les membres de cette famille dont tous ont plus ou moins une raison d'en vouloir au patriarche. Ben, c'est tout l'enjeu du film. Un film aux multiples rebondissements, hélas, souvent tirés par les cheveux. Le film avance en effet par énigmes successives, distillées par une mystérieuse voix off pour découvrir l'assassin et résoudre donc l'énigme sous peine de mort pour les protagonistes, bien entendu. Voilà. Donc, c'est un film qui laisse, moi je trouvais, il y a une tentative d'insuffler un style visuel, hein, un vintage très très coloré qui fait penser un petit peu aux années 50-60. C'est une tentative, ben oui, ben c'est bien, on peut pas la dénier, mais c'est sur l'intrigue que ça pêche. Moi, je trouve que ça pêche parce que cette intrigue finit par s'égarer dans des circonvolutions très alambiquées et elle finit par laisser le spectateur sur le bord du chemin tant cela devient complexe avec un méga rebondissement à 20 minutes de la fin tellement énorme qu'il enlève tout espoir de vraisemblance à un film qui ne cherchait pas d'ailleurs vraiment à être vraisemblable. Résultat, ben, je me suis ennuyé. Je soupçonne même d'avoir fait des micro-siestes. Vous voyez, c'est carrément ça. Alors, c'est un comble pour un film censé susciter la curiosité du spectateur. Enfin, dans le genre comédie policière, mieux vaut revoir, donc, comme l'ont dit une des critiques, à couteau tiré, autrement plus virtuose. Et puis, si on veut voir un film dans ce genre-là, avec un détective qui cherche à résoudre une enquête, il y a Amour sur le Nil encore sur les écrans. Même si ce n'est pas un chef-d'œuvre absolu, c'est mieux.
Il y a Maigret.
Oui, mais Maigret, c'est quand même différent. Maigret, c'est un côté quand même plus réaliste.
Oui.
Voilà. Murder Party. Méga CGR, Pathé Quinconce. Les meilleurs, c'est uniquement aux cinéastes. Les meilleurs, ça a droit à une séance par jour. C'est un film de Marion Desaigne-Ravel. C'est son premier long métrage à Marion Desaigne-Ravel. C'est une jeune réalisatrice française. Et donc, son film, eh bien, dure 1h20, 1h21, pour être même exactement précis. Alors, sur un mur de mon quartier, on a tagué « Le premier qui tombe amoureux a perdu ». C'est vrai, parce qu'après tout le monde parle sur toi et t'es à la merci. J'ai perdu, je suis amoureuse d'une fille, je ne sais pas quoi faire. Voilà, ça c'est ce que dit le synopsis. Mmh. Voilà. Alors, qu'en pense la presse ? 20 minutes, Caroline Vivier, ce premier film offre des rôles superbes à de jeunes actrices épatantes. le journal du dimanche Baptiste Thion. Ce joli film réaliste, mais pop, trouve le juste ton entre gravité et légèreté. Il ne manque surtout pas de cœur. Le Parisien, très bien joué, joliment réalisé, ce film au casting presque exclusivement féminin, se termine en suspens, comme un amour naissant, sans itinéraire balisé, mais plein de promesses. Thierry Chazelle en première, un exercice d'équilibriste réussi, porté par le duo Lina El Arabi-Esther Roland, renversant de justesse et de complicité. Camille Nevers dans Libération, histoire d'amour contrariée, entre deux jeunes filles en banlieue, le film variant de Saint Ravel aurait gagné à être moins raisonnable. Marie-Lou Dupont-Chat, Les Inrecuptibles, un film scolaire, bien dosé, faisant état de ses enjeux dans une écriture parfois trop littérale et corsetée, mais qui n'est pas sans intérêt. Donc, rappel, le film proposé par les cinéastes, une seule séance par jour. C'est un nouveau film sur les jeunes de cité, comme on dit, hein, ça c'est l'euphémisme de la nauflang, pour éviter de dire que ce sont des jeunes français d'origine maghrébine. Hein. Cette fois-ci, il s'agit d'une bande de filles. Bah, c'est pas une première, il y a déjà eu par exemple Divine, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Le sujet, eh bien, ça en est l'homosexualité féminine. Sujet tabou, s'il en est, dans ce milieu où la réputation compte beaucoup. Donc, Gemma tombe amoureuse, à son grand étonnement d'ailleurs, de sa nouvelle voisine, Zina, sur fond de rivalité entre bandes de filles du même quartier. Certes, dans un premier temps, elle cherche à cacher cette relation qui reste donc d'abord secrète. Mais quand ses propres copines la découvrent, eh bien, c'est la rupture avec ses copines, justement. C'est un sujet tout simple qui parle de la mentalité des cités où les relations homosexuelles sont plus que mal vues. Hein. C'est carrément ce qui peut arriver, par exemple, de pire à quelqu'un d'être homosexuel. Alors ça, c'est des filles, mais ça serait pareil pour des garçons. Hein. Voilà. Donc bon, voilà, on sait que c'est le genre de chance qu'il vaut mieux ne pas afficher publiquement sous peine de graves problèmes et d'un véritable ostracisme dans ces quartiers. Bon, la tolérance est une vertu bien peu partagée par les jeunes de cette catégorie de la population. Ben, à ce titre, il y a d'ailleurs une scène fort intéressante entre Gemma et sa mère qui explique donc à sa fille que quand elle est arrivée en France, c'était entre autres pour se libérer du poids de la tradition, de la religion et du candidaton et qui constate que la nouvelle génération s'enferme et subit ce poids du regard des autres. Voilà, donc ça c'est une scène extrêmement forte du film. C'est un film réaliste, donc sur une histoire d'amour qui constate une réalité interprétée comme il se doit par des jeunes actrices pleines de dynamisme et de tchatch. Alors, pas sûr que cela fasse beaucoup avancer les choses en matière de tolérance. Ça a rangé dans la catégorie des films qui seront vite oubliés, mais probablement pas vus en plus par les gens concernés. Alors, Pierre ?
Oui, ben, d'intolérance, je vais en parler aussi. Ce film d'une durée d'1h20, donc court,
oui,
et donc qui me convient parfaitement, nous interroge sur la question suivante. Comment être de nos jours à la fois lesbienne et beurette, dans un monde souvent intolérant, justement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette intolérance ne vient pas des hommes, je parle dans le film, hein, mais des femmes, sœurs, copines, chez qui la pilule ne passe pas, sauf peut-être dans le monde des adultes, la mère ou encore l'animatrice du foyer pour jeunes de banlieue. Il y a, au-delà de cette dureté, quand même un magnifique film d'amour entre les deux jeunes femmes qui ne sombrent jamais dans le vulgaire ni dans le voyeurisme. Belle performance de Lina El Arabi et d'Esther Roland, les deux protagonistes de cette liaison, qui bravent les interdits. Lina El Arabi, remarquée dans Nos en 2017. Mm-hmm. Oui, tu te souviens?
Oui.
Et Esther Roland dans Homme au bord de la crise de nerfs. C'est leur seul film antérieur. Hein.
D'accord.
Elles sont dans ce film Nejma et Zina. C'est
voilà.
Tout.
Donc, c'est un film qui s'appelle Les Meilleurs. Et c'est au cinéaste avec une seule séance par jour. Tout comme au cinéaste, on peut voir aussi The Housewife. Alors, The Housewife, ça a droit à deux séances par jour. Alors, The Housewife, titre original, Red. Alors, allez, ça y est, ça fait partie de ces mystères. On traduit un titre anglais par un autre titre anglais qui n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. En plus, c'est un film japonais réalisé par Yukiko Mishima. Yukiko Mishima, j'ai pas... c'est son premier long métrage. Réalisatrice japonaise, son premier long métrage, 2h03. C'est en recroisant son ancien amant de faculté que Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de travailler et de reprendre son métier d'architecte. Mais peut-on jamais réinventer sa vie? Voilà. Gilles Kerdeau dans Ouest France déclare que c'est un superbe drame sentimental à l'image envoûtante. Vincent Ostria dans L'Humanité, comment une femme au foyer japonaise s'extirpe d'un mariage prison et aborde l'aventure amoureuse avec mille scrupules. Le tout filmé avec élégance par une cinéaste jusque-là inconnue, Yukiko Mishima. Le journal dimanche, Stéphanie Belpeche, sous ses dehors de mélo romantique façon In the Mood for Love, Yukiko Mishima filme la passion amoureuse avec une acuité et une délicatesse inouïe de l'exaltation des sentiments aux étreintes charnelles. Thomas Borès en première, Yukiko Mishima ose ici le mélodrame, portant haut la fièvre des sentiments, The Housewife devient ainsi une magnifique danse macabre, car oser l'aventure pour se retrouver, c'est accepter de sacrifier une part de soi-même. Jean-Claude Raspinjas Lacroix, ce film fascinant est hélas plombé, par moments, par un recours trop appuyé au mélo qui gâche un peu le brillant de la réalisation. Adrien Gombaud Les Échos, à travers une variation sur la figure du trio amoureux, Yukiko Mishima dresse le portrait d'une japonaise d'aujourd'hui, une mise en scène un peu trop apprêtée pour un film d'hiver, délicat. Mathieu Macheret Le Monde, l'intention louable, dérafler l'archétype de la ménagère japonaise est abordée de façon si scolaire qu'on sombre vite dans l'écueil inverse du roman à l'eau de rose. Jacques Maurice Télérama, malgré des acteurs solides et quelques scènes originales, The Housewife a fâcheusement tendance à accumuler les notes de sensiblerie et à s'enliser dans le mélodrame convenu. Pas vu The Housewife, 2h03, au cinéaste avec 2 séances par jour.
C'est le film que je pense voir, hein, ce week-end, oui.
C'est bien. Petite pause musicale, un titre Deep Purple que l'on entend dans Petite Nature, Child... In Time.
1970.
Ah, bah c'est bien, il a l'air de connaître ça.
Ah oui, ça fait partie de la décennie.
Ah, ben oui, exactement. Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
You'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, bullets flying, taking toll.
Pierre, qui a l'ouïe fine et qui est un spécialiste, m'a déclaré dès le départ, c'est la version live. Effectivement, je confirme. On va pas vous la passer en entier parce que c'est un titre très long, il fait 10 minutes. Hein.
Ouais, 10 minutes.
Et c'est bien la version live, il a reconnu ça dès le début parce que c'est pas la bonne intro de la version, c'est ça hein.
Oui, parce que c'est l'album de 70, c'est Deep Purple in Rock.
C'est ça.
Et j'ai pas reconnu l'intro, donc c'est en public. Oui.
Voilà, donc.
Ça doit être peut-être Live in Japan.
Ah, ça, attends, je vais te dire ça.
Si parce qu'il y a un album Japan. Qui s'appelle Live in Japan.
Je sais pas si c'est marqué Live. Non. On the British TV show.
Ah bah c'est un autre.
Voilà, donc ouais. Je confirme que c'est bien la version live. On va pas l'écouter en entier parce que ça fait 10 minutes.
Ouais, c'est long.
Alors, c'est un titre que l'on entend, alors évidemment pas en entier, mais dans Petite Nature. Vous l'écoutez là sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Allez, Kung Fu Zora. Kung Fu Zora, c'est un film qu'on peut voir uniquement au Méga CGR. C'est un film de Mabrouk El Meshri, acteur, réalisateur scénariste en 1976, il a fait des courts-métrages, et puis en 2005, un premier long qui s'appelait Virgile, avec Jalil Lesper et Léa Drucker. En 2008, JCVD, ça veut dire Jean-Claude Van Damme, c'était un film avec Jean-Claude Van Damme, et c'était un excellent film d'ailleurs. 2012, il passe aux États-Unis, un film sans issue avec Henry Cavill, Bruce Willis et Sigourney Weaver, et puis il est également réalisateur de séries, d'épisodes de séries comme Maison Close sur Canal, par exemple. Kung Fu Zora, je répète donc, c'est uniquement au Méga CGR, c'est-à-dire 1h38. Persuadé qu'une rupture briserait le cœur de sa petite fille Zora, n'arrive pas à quitter son mari Omar, malgré les violences qu'elle subit. C'est alors qu'elle rencontre un maître de Kung Fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre désormais coup pour coup. Caroline Vier en première, le spectateur est enthousiaste devant la performance de la comédienne. La comédienne, c'est Sabrina Ouazani, dont le charisme et la détermination éclairent Kung Fu Zora. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Mabrouk El Meshri, dont on sait l'amour pour le cinéma d'action et d'arts martiaux chinois, rend un bel hommage aux classiques du genre avec Bruce Lee et Jackie Chan, en reprenant même les bruitages, à travers ce film très en colère qui dénonce des violences conjugales. La rédaction de West France, un mélange de genres audacieux entre drame social, comédie absurde et tribute au film de Kung Fu. Simon Rio, écran large, un récit détonnant qui part trop fréquemment dans trop de directions pour tenir toutes ces vigoureuses promesses, mais qui étonne, voire impressionne, sitôt qu'il se repose sur l'action menée par ces deux formidables interprètes. Alors le deuxième, c'est Ramzi Bedia. Hein. Télé 7 jours, Isabelle Magnier, malgré un scénario qui aurait mérité d'être plus écrit, le réalisateur, qui s'inspire d'un trauma familial, ne passe pas à côté de son sujet et offre un final réussi. Le Parisien, on le trouvait intriguant ce scénario, une façon originale, décalée, pensait-on, de traiter les violences conjugales. Déception, le tout sonne malheureusement faux, les mécanismes d'emprise sont à peine effleurés. Paris Soviet en Télérama, difficile de savoir ce qui est le pire ici, entre les interminables séances d'entraînement de Sabrina Ouazani et le cartoonesque affrontement final. Le réalisateur de JCVD s'empare d'un sujet de société pour revisiter Karate Kid. Son douteux Karate Bid fait mal à la tête. Oui, alors je suis un peu plus mesuré quand même que ces dernières critiques. On pourrait qualifier Kung Fu Zora de film de Kung Fu féministe, en tout cas. C'est une façon originale, mais pas complètement convaincante, de traiter le problème des violences conjugales à travers l'histoire de Zora. Zora, c'est une fille du bled qui épouse un maghrébin de France et qui la ramène en région parisienne pour vivre la vie d'un couple dans cette banlieue parisienne. Alors la relation entre eux se tend très vite, et même après avoir eu leur petite fille, car Omar est jaloux de sa femme et ne peut s'empêcher de la gifler fréquemment pour un oui, pour un non, parce que quelqu'un l'a regardé de travers ou l'a regardé trop de façon appuyée. Enfin voilà, donc grâce à une amie, celle qui raconte l'histoire en voix off, Zora prend conscience que cela ne peut plus durer et elle prend des cours de kung-fu, sa passion depuis longtemps, auprès d'un vieux chinois qui devient son mentor. Hein, c'est un peu le genre Karate Kid, voilà, ce genre de truc comme ça. Voilà.
Bruce Lee.
Voilà, en fait, il y a deux films dans le film. Un dramatique sur les violences conjugales qui décrit parfaitement le phénomène de l'emprise, du déni, puis de la difficulté à rompre à cause du risque de séparation crève-cœur de l'enfant, la petite fille donc avec un de ses deux parents. S'il y a divorce, forcément, il y a un des deux qui aura la garde. Et puis, il y a un second film, c'est un récit d'apprentissage, un film d'action utilisant tous les codes des films à la Bruce Lee ou Jackie Chan. Et dans ce deuxième film, eh bien, Zora apprend à se défendre. Alors, pris séparément, les deux films sont cohérents. C'est le mariage des deux, le mélange des deux genres qui convainc moins. Mais reconnaissant quand même à la bondissante Sabrina Ouazami, un sacré abattage. et une forme physique impeccable lors de ses entraînements et de son combat final. Alors à ce titre, ne quittez pas la salle au mot fin, car il y a une sorte de bonus tout le long du générique de fin qui rend hommage au film de Kung-Fu.
Ça se fait de plus en plus.
Ça, oui, exactement.
Pour que les gens restent...
Oui. Et une façon particulière donc de parler des violences faites aux femmes. Je vous répète, ce n'est pas totalement convaincant. Je ne suis pas sûr que le film touchera vraiment comme il l'espérait certainement sa cible. Allez, à demain mon amour. À demain mon amour, c'est un documentaire proposé par les cinéastes de Basile Carré-Agostini. Basile Carré-Agostini, c'est son premier long métrage. C'est un réalisateur, directeur de la photo et ingénieur du son. 1h32, les cinéastes pour À demain mon amour. Et À demain mon amour a droit à une ou deux séances par jour. Monique et Michel Pinson-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s'aiment depuis plus de 50 ans, ont une retraite confortable dont ils pourraient profiter paisiblement, mais comme ils sont un peu dingues et sensibles à l'injustice, ils ont décidé d'accélérer leur combat contre le système capitaliste planétaire. Voilà. Alors, l'humanité, Marie-Josée Sirac. L'humanité déclare un portrait généreux, éclairant sur l'engagement et le travail de ce duo aussi soudé dans la vie qu'au travail. Valentine Guégan, dans les cahiers du cinéma. À une époque qui ne parle que trop de résignation politique, les Pinson-Charlot apparaissent comme un salutaire modèle d'idéalisme et de foi, montrant que l'optimisme n'est pas l'apanage de la naïveté juvénile. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, un hommage à celles et ceux qui croient encore au lendemain qui chante. Sylvestre Picard en première, s'il saisit de chouettes moments, le film semble quand même se satisfaire de la présence de ces deux sympathiques héros et de dérouler des fragments sans réelle vision d'ensemble. Le film s'achève sur les premiers points de la pandémie et il est ainsi dommage de ne pas avoir mentionné la présence de Monique Pinson-Charlot dans le film complotiste Hold Up. Alors moi, je ne suis pas allé le voir parce que je ne les supporte pas, ces deux-là. Donc, je les connais pour les avoir vus à la télévision et je ne les supporte pas.
Bon. Bah, les documentaires, je ne suis pas trop accro. Donc.
Non, au cinéma, c'est vraiment pas le...
C'est plutôt pour la télévision,
je trouve. Women Do Cry. Women Do Cry, c'est un film bulgare, de Mina Mileva et Vesela Kazakova. Voilà, donc Milena Mileva et Vesela Kazakova. Eh bien, Milena Mileva avait déjà, avec Vesela Kazakova, réalisé un film qui s'appelait Un chat dans le mur, qui n'a pas été distribué en France. Ce sont toutes deux des réalisatrices, scénaristes, productrices bulgares et Vesela Kazakova est en plus actrice. Alors, une cigogne blessée, une femme en pleine dépression postnatale, une jeune fille confrontée aux stigmates du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans le calendrier lunaire. Sœurs, mère et fille se confrontent à leur fragilité et à l'absurdité de la vie au moment où de violentes manifestations et débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie, d'après une histoire vraie. Alors, Caroline Vier, dans 20 minutes, Women Do Cry n'est pas tendre avec ses personnages masculins, tous montrés comme d'odieux machos. Mais il offre des portraits féminins, tout en subtilité, en même temps que des révélations passionnantes sur la vie quotidienne dans un pays méconnu. Camille Nevers, Libération, une œuvre d'un féminisme radical, portée par un casting formidable. Frédéric Strauss dans Télérama, sous la franchise abrasive de ce regard sur la condition féminine bulgare, une nostalgie de la tendresse fait vibrer ses portraits de femmes à fleur de peau. François Forestier dans l'Obs, un peu long, 1h47, parfois maladroit. Le film dégage cependant une évidente sincérité et est un puissant appel à la liberté. Baptiste Thion, le journal du dimanche. Le propos trop appuyé finit par desservir l'ensemble, d'autant que le binôme, visiblement soucieux de répertorier toutes les humiliations que subissent les femmes en Bulgarie, ne fait qu'esquisser certains personnages un peu réduits à des prétextes. Clarisse Fabre, Le Monde, tournée dans une énergie de film ND pour indépendant, avec des actrices très justes, Women Do Cry souffre d'un scénario surchargé de situations dramatiques, comme s'il fallait cocher toutes les cases du film à sujet. Denitsa Bancheva, dans Positif, on comprend vite qu'il s'agit d'un film militant. Malgré la sympathie que sa cause nous inspire, ce n'est pas pour autant qu'on l'apprécie. De fait, le scénario et la mise en scène donnent dans l'outrance. Voilà, ça s'appelle Women Do Cry. C'est proposé par les cinéastes avec une voire deux séances par jour.
Pas vu.
Et non, pas vu et pas tellement d'ailleurs envie de le voir. Dernier film à l'affiche, alors c'est un peu particulier, ça s'appelle L'Homme de Dieu. C'est un film de Yelena Popovitch. C'est un peu particulier, pourquoi ? Parce que le film est proposé par le Pathé, mais pas tous les jours. Et quand c'est proposé, c'est pas à toutes les séances. Ça fait partie des films chrétiens, on peut dire, que présente de temps en temps le Pathé avec des séances pas vraiment spécial, puisque c'est ouvert à tout le public. Mais voilà, donc de quoi est-il question dans cet homme de Dieu? Eh bien, il est question d'un personnage qui s'appelle Saint Nectarios d'Égine. Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif, la vie, les épreuves et les tribulations d'un homme de Dieu, Saint Nectarios d'Égine, qui supporta jusqu'au bout la haine injuste de ses ennemis, tout en prêchant la parole de Dieu sans relâche. Là, pas de revue de presse, parce que la presse n'a pas été voir le film. Voilà, c'est un film proposé par le Pathé, pas tous les jours, pas toutes les séances d'ailleurs dans une journée, donc qui s'appelle L'Homme de Dieu. Allez, dernière page musicale avant de nous annoncer les films, les avant-premières pour la semaine prochaine. C'est un titre que l'on entend sur le générique de fin du film Les Meilleurs, I'll Take Care of You, Gilles Scott Aaron, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Voilà, donc I Take Care of You. Ben, moi non plus, mais c'est l'occasion.
Je l'ai entendu. Heard by someone else, I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost, same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You won't ever have to worry. You won't ever have to cry, for I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true. There's no doubt in my mind, know what I wanna do. And just as true as one and one is two, I know I'll take care of you. I'll take care of you. Take care of you. I'll take care of you.
I'll Take Care of You, Gilles Scott Aaron, que l'on entend sur le générique de fin du film Les Meilleurs. Les avant-premières pour la semaine prochaine, dimanche à 18h, que ce soit au Méga, au Colisée ou au Pathé, dimanche, il y a la possibilité de voir Jujutsu Kaisen Movie 2.0. C'est un dessin animé qui me paraît être sud-coréen, vu le nom du réalisateur Park Sung-ho. Le film sortira le 16 mars, donc mercredi prochain, et donc on peut le voir à 18h au Méga, à 18h au Colisée en VO, et à 18h au Pathé en VO, dimanche, dimanche 13. Autre avant-première, mardi 15, Alors on danse, de Michel Larocque, cette fois-ci c'est à 20h au Méga. Et puis l'équipe des cinéastes propose, alors c'est pas les avant-premières vraiment, mais c'est des séances spéciales, Paula X, oui, le film de Léos Carax des années 1999, j'ai ça sous les yeux. C'est proposé non pas au cinéaste, mais c'est proposé au Cinépoche. Oui. Et c'est l'occasion de revenir au Cinépoche avec une projection argentique. Ça sera dimanche à 17h. Bon, personnellement, je n'avais pas du tout aimé Paula X, mais bon, je ne suis pas un gros fan de Léos Carax. toujours proposé par les cinéastes, mais cette fois-ci aux cinéastes. Carte blanche aux abominables. The Neon Demon, un film qui était sorti en 2016 de Nicolas Winding Refn. C'est un film très arty, comme on dit. Et puis, mardi 15, les cinéastes toujours proposent La main droite du diable de Costa Gavras. Très, très bon film en ciné-conférence. Voilà, donc la semaine prochaine, que verrons-nous sur les écrans Monceau? Eh bien, nous verrons Notre-Dame brûle. Je l'ai vu, c'est intéressant sur le plan de la reconstitution de l'incendie de Notre-Dame. Les autres films, À plein temps, un film avec Laure Calamy. L'histoire de ma femme, un film hongrois, je crois. Alors, le problème, c'est qu'il fait 2h49, donc ni Pierre ni moi n'aurons probablement le courage d'aller le voir. Trois fois rien, c'est un film français, une comédie, une petite comédie sociale. L'Empire du silence, au cinéaste, un documentaire. Alors, on danse, donc je le disais à l'instant. Jujutsu Kaisen Movie 0. Et il y aura peut-être d'autres films, et ceux-là, je suis sûr qu'ils seront proposés sur les écrans Monceau. Cette semaine, Pierre, tu recommandes les meilleurs?
Oui, moi j'ai aimé. Oui,
ouais, moi je dirais Petite Nature, j'ai beaucoup aimé Petite Nature. Goliath, avec les réserves que j'ai pu faire, voilà. Hein. Les meilleurs, c'est pas si mal que ça.
Il y a eu beaucoup de conditions féminines dans les films.
Oui, absolument.
C'est peut-être pas un hasard, puisque cette semaine, c'était la journée de la femme.
Exactement.
Ouais.
Voilà. Alors, donc nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. À nouveau pour Clap. Voilà, c'était Clap.
Au revoir.
Au revoir.